Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on est de retour pour une petite chronique de Marc-Antoine qui va nous parler un petit peu, en fait, du retour, un retour sur les élections municipales en Turquie qui se sont passées il y a comme 3 semaines, mais justement...
Ben, en fait, pardonne-moi de la correction, vas-y. C'était dimanche.
Dimanche?
Mais j'avais évoqué dans une première chronique il y a deux semaines ce qui s'en venait.
Donc, sur ce, je dis n'importe quoi, donc la parole va à Marc-Antoine.
Donc, comme je le mentionnais, les élections ont eu lieu ce dimanche, qui était Pâques, et ça a également lieu pendant le Ramadan. Plus de 61 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes. Pour ce qui est des enjeux des élections municipales, je l'avais évoqué un peu dans ma première chronique il y a 2 semaines. Erdogan, qui est l'actuel président au pays, était déterminé à regagner Istanbul, qui a un statut de capitale économique du pays. 30 % du PIB du pays est d'ailleurs concentré dans la ville, tout comme Ankara, la capitale du pays, qui l'a perdu lors des précédentes élections municipales en 2019, comme j'avais évoqué dans ma chronique. Ce qui est particulier, c'est que Istanbul et Ankara votaient traditionnellement l'AKP ou ses prédécesseurs depuis 1994, avant les élections 2019. Pour revenir brièvement sur les élections de 2019, ça avait été son pire revers électoral, bien que le scrutin avait été serré. Pour ce qui est des élections municipales à Istanbul, c'est actuellement le maire d'Istanbul était en avance avant les élections. OK. Excuse. Il était en avance. C'était un potentiel rival de Erdogan. Puis, advenant une victoire, il serait devenu plus solidement un sérieux opposant à Erdogan pour l'élection présidentielle en 2028. Une victoire de M. İmamoğlu sera déterminée par le taux de participation. Si celui-ci est haut, comme c'est souvent le cas, la victoire est à sa portée, alors que si celui-ci est bas, la victoire est incertaine. Certains électeurs craignent qu'une victoire d'Erdogan va empirer la situation économique actuelle dans le pays, qui affecte de manière importante la classe moyenne. C'est 67 % d'inflation en un an et une hausse importante de la monnaie du pays. Elle passe de 19 livres pour un dollar à 32 livres pour le même dollar un an plus tard. Il y a des électeurs qui veulent qu'il y ait un équilibre entre l'échelle nationale, le gouvernement et le local, municipal, plus près des électeurs, ce qui va les amener à voter pour l'opposition à Erdogan. C'est sûr pour la pause.
Donc, on va aller en petite pause publicitaire, puis justement, Marc-Antoine va continuer sa chronique tout de suite après. Il va avoir une petite chanson, là. On vous gâte. On est de retour. C'est Enzo qui va continuer sa chronique sur les élections municipales.
C'est Marc-Antoine, c'est pas Enzo.
Marc-Antoine, je suis désolé. Ça avait si bien commencé cette journée et pourtant c'est parti en couille assez vite. Vas-y Marc-Antoine, je te laisse la parole.
Merci Jérémy. Donc, pour ce qui est des élections municipales, le scrutin s'annonçait très serré parce qu'il y avait pas de front commun des oppositions qui ont chacun leur candidat. Ce choix est dû à leur défaite lors des élections présidentielles l'an dernier. Puisque chaque opposition a ses candidats, il y a le parti pro-Kurdem, qui est troisième force au Parlement, qui favoriserait l'AKP en jouant solo. CHP, qui est le principal parti de l'opposition dont fait partie M. İmamoğlu, le maire d'Istanbul, est confiant en raison qu'ils sont en avance à Istanbul et devraient remporter İzmir et Ankara. Behram Bazi, explique qu'une victoire d'Erdogan à Istanbul et Ankara serait perçue comme un signe éventuel que les électeurs souhaitent son maintien au pouvoir, tout en incitant ce dernier à changer à nouveau la Constitution et à se représenter pour un quatrième mandat lors des élections présidentielles en 2028. Pour ce qui est des résultats des élections, Erdogan a échoué à reprendre Istanbul et Ankara, qu'il avait perdu en 2019. À Istanbul, M. Imamoglu a gagné 26 des 39 arrondissements d'Istanbul, ce qui correspond à 51% des voix, comparativement à 14 en 2019. Fait particulier, lors de ces élections, il a notamment remporté celui du Skudar, où Erdogan a sa résidence et d'autres arrondissements votant traditionnellement occupés. Ankara, CHP a remporté 16 des 25 arrondissements, dont celui de Kesloren, deuxième plus peuplé qui avait toujours voté pour l'AKP ou ses prédécesseurs depuis 1994. C'est une victoire décisive par 30 points d'avance. CHP a également remporté İzmir, Bursa et Antalya de façon décisive, ce qui fait qu'elle a remporté les 5 plus grandes villes du pays. Erdogan a même perdu certaines capitales des provinces formant l'Anatolie, qui étaient considérées comme des bastions de l'AKP. Ça serait la plus grande défaite électorale d'Erdogan depuis qu'il est au poste. De son côté, CHP, Parti républicain du peuple, aurait enregistré son meilleur résultat depuis la fin des années 70. Je vais faire un parallèle avec ma première chronique. Est-ce que, suite aux résultats des élections municipales, Erdogan cédera sa place en 2028 comme il l'a évoqué durant la campagne? De mon avis personnel, il est beaucoup trop tôt pour envisager ce scénario. Il reste un peu plus de 4 ans avant les prochaines élections. C'est un politicien, Erdogan, qui est expérimenté, voire de carrière, qui est au pouvoir depuis 2003. Chaque fois qu'on a annoncé son déclin, il est revenu plus fort. Par exemple, en 2019, certains analystes avaient évoqué qu'il perdrait éventuellement le pouvoir présidentiel après qu'il a perdu Istanbul et Ankara lors des élections municipales ayant lieu la même année, en 2019. Comme on sait, ces derniers ont eu tort car il a été réélu en mai 2023 avec 52% des voix. Il est vrai que le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, serait un candidat intéressant pour l'opposition suite à sa victoire et son mandat fort. Toutefois, il fait face à des ennuis judiciaires et a été condamné à 2 ans et 7 mois de prison pour insulte aux membres du Haut Comité électoral turc en 2022, ce qui pourrait affecter, comme en mai 2023, sa candidature à la présidentielle de 2028. C'est ce qui conclut.
Donc, merci beaucoup, Marc-Antoine, pour la fin de ta chronique. Et c'était la dernière chronique de l'émission aujourd'hui. On a eu plusieurs sujets rock'n'roll au sein de la journée. On a parlé de fanatisme religieux. On a parlé de gens peu recommandables qui vont être présents aux Fêtes du Lac des Nations. Mais on recommande d'aller au festival, peut-être simplement pas quelqu'un qui chante une chanson du nom de Seigneur et qui ne preach pas les paroles du Seigneur. Donc.
Mais d'ailleurs, j'aimerais bien faire une, pourquoi pas plus tard, teaser, pourquoi pas une chronique sur la laïcité et la montée de la religion dans tout un tas de pays, l'impact que ça... faut réussir à faire ça en 15 minutes, là. Mais je regardais quel pays se considère laïque, les débats que ça peut avoir. Parce qu'au Canada, ça a été vraiment intéressant, les débats sur la question de la laïcité, notamment entre le Québec et le reste du Canada. Le fait aussi que le Québec veut se détacher du royaume d'Angleterre, qui, lui, est lié à la religion
catholique. Mais je crois qu'il nous reste juste une semaine de radio.
Waouh. Bon, ça sera peut-être dans un prochain stage ou dans ma vie professionnelle.
Mais en tout cas, moi je regarde le calendrier et les derniers calendriers sont tous noirs et je sais pas, je pense que va falloir vérifier, mais c'est possible que la semaine prochaine soit notre dernière semaine.
Et après ils nous laissent la fin de session pour bosser peut-être en fait.
Ouais, c'est ça, ben c'est parce qu'il faut quand même faire les rapports de stage.
Ben oui.
Je tiens à vous dire, c'est 20 pages.
Waouh.
C'est un petit cri de cœur. J'ai 2 stages, j'ai 40 pages à
T'as
faire.
T'as commencé?
Non.
Waouh.
Je vais passer les 2 prochaines semaines.
Pour le collectif, c'est ça que tu dis, t'as 2 stages?
Oui, exact. Wow. Fait que pour le collectif. Et puis moi, la semaine prochaine, j'ai 5 films à aller écouter au festival. Un festival du cinéma de
chien. Pour le collectif?
Non, pour le plaisir. Mais okay. Je pense que ça va pas amener beaucoup de plaisir. Mais oui, je vais écrire des articles sur le collectif, des films que je vais aller voir. On va essayer que ça soit productif. entre vous et moi. Mais d'ailleurs, je vous invite à aller voir le Festival du Lac des Nations, Festival du cinéma de Sherbrooke, Sherblues cet été aussi, qui est juste avant le Festival du Lac des Nations. C'est plein d'événements culturels, super le fun, c'est diversifié, puis je crois que ça fait beaucoup de bien, je pense, à l'âme de participer à des événements culturels.
Oui.
C'est bien pour votre connaissance puis votre compréhension, mais c'est le fun.
Puis pour aussi pour participer à un moment
c'est le fun.
Musical et festif avec d'autres gens, de partager le partage de la culture et de la festivité. Mm. C'est ça dont on a besoin.
Oui,
aussi, je pense,
on parle souvent de comme, tu sais, j'ai des travaux, j'ai ci, j'ai ça, prenez le temps de respirer, voilà. Prenez le temps de...
C'est pas, plus en juillet, donc
ouais, c'est ça.
Cher blues.
Tu sais, prenez le temps de respirer, prenez le temps de... Ben, tu sais, les gens vont travailler, vont faire des 40 heures. C'est bien, mais tu sais, des fois, une semaine, vous prenez un congé, vous allez voir des spectacles, c'est le fun.
Oui, mais c'est important de prendre soin de notre santé mentale.
Mm-hmm. On essaie tout le temps d'aller trop vite maintenant. Donc, moi, j'invite tout le monde à participer à des événements culturels pour votre propre plaisir.
Bah, d'ailleurs, ça, moi, je me permets de faire une promo. J'ai vu qu'il y a le Parti communiste révolutionnaire qui va lancer qui va lancer sa officiellement sa branche et son parti à Sherbrooke, donc voilà, pareil comme tu dis, si vous voulez faire une, j'ai vu qu'il y avait ça, si vous voulez faire une pause, et il y a le lancement sherbrookois du Parti communiste révolutionnaire qui aura lieu samedi 6 avril, donc ce samedi à 17h au refuge des Brasseurs. Donc s'il y a des personnes qui s'inscrivent dans la lutte révolutionnaire, la lutte contre toutes les formes d'oppression, la lutte...
Qui ont juste envie de savoir c'est quoi.
Et qui aussi veulent se renseigner. Donc voilà, c'est samedi à 17h. J'ai pas beaucoup de temps d'expliquer, mais tu parlais de faire des pauses en ce moment, d'aller voir des...
Diversifier ses points de vue, diversifier ses opinions.
Et lutter aussi. Donc
oui,
moi, c'est quelque chose que je...
Ben, ça coûte rien à la fin de la journée.
Que j'invite les gens à se renseigner.
J'ai pas vu qu'il y avait des panels comme on a assisté qui allaient se faire, mais si jamais vous en voyez un, allez-y. Je sais que les cafés de 440 font des événements souvent. Je sais que le café nordique fait des open mic. Il y a un show de drag au Bac et Bière qui s'en vient cette semaine, je crois. Pour ceux qui ont pas eu l'occasion d'aller voir des shows de drag, je vous invite, c'est super plaisant. C'est ça. Une invitation au plaisir. C'est un peu étrange comme formulation, mais. Une invitation à profiter des parce que je trouve que Sherbrooke fait quand même plusieurs événements culturels. Je trouve que, par contre, la participation est sectaire. Je sais pas comment, si on peut dire ça comme ça. Ça se mélange pas beaucoup. Les gens de différentes cultures ne se mélangent pas beaucoup. Allez au Café Baobab aussi. Je vous invite fortement. C'est sur Dunant, dans le coin du Mont-Bellevue, qui fait des super événements culturels tout le temps. Et puis c'est ça, bref, mélangez-vous, parlez, communiquez, ayez du plaisir. On a des belles températures, il fait soleil, c'est le moment d'en profiter. Puis oubliez pendant un instant les examens, je pense que oublier une soirée les examens, je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de gens. Oh, c'est quand même plus cute que quand on parlait de Kevin Parent. Donc sur ça, je crois qu'on va conclure cette émission et on se revoit demain, jeudi ou la semaine prochaine.
On se retrouve demain. Il y aura moi et Marc-Antoine et moi, et on sera aussi accompagné de Noémie. On n'a pas encore bossé sur les entrevues. Moi, je sais que je vais bosser donc sur je vais faire une chronique sur la gratuité, l'annonce de la prochaine gratuité des contraceptifs féminins au Canada. Donc, je sais que tu m'accompagneras un petit peu là-dessus. Pourquoi pas faire une double chronique?
En lien avec le projet de loi sur l'assurance médicament, dont les mesures devraient... le contenu plus en détail devrait être révélé lors du budget dans deux semaines.
Est-ce que toi, tu veux nous parler de ta chronique de demain? Teaser un peu.
J'ai pas encore de chronique préparée, parce que celle sur la Turquie était supposée d'être demain, mais avec le contexte d'aujourd'hui, on a choisi de la décaler, fait que, de la devancer, en fait.
On se retrouvera alors demain pour une nouvelle émission. Donc voilà, je te laisse conclure.
Oui, c'est ça. Donc, je vous laisse sur le mot tourlou. À la prochaine, les chers auditeurs.